Sud Vendée Sport, Antoine Judith.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Sud Vendée Sport. Nous allons parler notamment aujourd'hui de marche athlétique avec Valérie Nivet et Laurence Berton qui sont nos invités. On aura également Quentin Bernard, défenseur et capitaine des Chamois Niortais qui sera présent pour nous parler eh bien, de la bonne saison du club et des ambitions de remonter en Ligue 2. Et évidemment, autour de la table, nos chroniqueurs Nicolas, Christian et Olivier. Bonjour à tous.
Bonjour Antoine.
Bonjour tout le monde.
Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout va bien?
Mais très bien, Christian est en train de casser le micro, mais tout va très bien.
Après ce week-end de pluvieux, difficile de sortir dehors, la tempête, ça va, vous n'avez pas été trop perturbé, pas d'inondation, tout va bien?
Non, tout va bien.
Tout va bien chez nous, impeccable.
Le sport, c'était la télé et,
voilà, c'est ça.
Et ça a fonctionné.
Et il y en avait beaucoup.
C'était l'occasion de rester à la maison et de regarder à la télé un petit peu ce qui s'est passé, et notamment le match face à l'Italie, le tournoi de destination, Olivier. Match nul 13 partout. Si on fait comme ça un rapide tour de table des événements qui nous ont marqué lors de ce week-end, ce match nul, c'est quand même une énorme déception. C'est presque une défaite.
Oui, c'est presque une défaite. On a failli même être battu. Il a fallu que, heureusement, que la pénalité ne passe pas entre les poteaux. C'est manqué de constance pour tuer le match en première mi-temps. Et bon, bah, cette sanction du carton rouge qui fait qu'on finit le match à 14. Et puis après, on a souffert. Voilà, on a. Le jeu a été triste, c'est vrai que l'absence d'Antoine Dupont et d'Emile Ntamack fait beaucoup de mal à l'équipe de France.
Romain, parce que Emile, alors
là, ouais, Emile c'est notre historien, c'est notre historien.
Et Emile Ntamack, c'est normal, ça fait un petit bout de temps qu'il est absent maintenant. Ouais. Mais leur absence, c'est vrai, pèse peut-être plus que prévu quand on sait que le rugby est quand même un sport très collectif. Là, ces individualités-là nous manquent, mais il n'y a sûrement pas que ça, parce que quand vous faites des matchs qui sont aussi pauvres dans la qualité, il y a sûrement d'autres raisons.
On est beaucoup indisciplinés aussi. On a fait énormément de fautes hier après-midi face aux Italiens. Alors, des pertes de balles. Et puis, surtout, on prend encore un carton rouge. Et on en a pris un contre l'Irlande, ça nous a coûté cher. On en a pris un contre l'Italie, ça nous coûte cher. Il y a beaucoup d'indiscipline. Et puis, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim parce qu'on a vécu des très belles années Galtier avant la Coupe du Monde. Et puis là, on se rend compte qu'au final, un ou deux joueurs, alors je ne sais pas si ça fait la différence, mais ça manque. Et ça manque. Et les joueurs qui sont là pour les remplacer, Lucu sur l'Irlande, ça a été compliqué. Jalibert sur hier, ça a été compliqué.
Il est sorti sur blessure d'ailleurs.
Ouais, il est sorti sur blessure. On voit qu'Aldrit est blessé et il manque aussi. Dans les packs avant, on fait moins la différence. Ouais, il manque quelque chose. Il manque quelque chose et est-ce qu'on est sur une reconstruction?
Difficile à dire. En attendant, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête aussi. Comme si les joueurs étaient un petit peu restés bloqués sur ce quart de finale et cette défaite contre l'Afrique du Sud.
Oui, c'est possible. Ça peut être, c'est vrai que l'équipe de France avait des gros espoirs sur ces mondiaux en France. Ça peut être effectivement bousculer l'état d'esprit de certains joueurs. Mais là, contre l'Italie, on voit qu'il y a un manque de folie dans le jeu, ce qui fait qu'on est trop stéréotypé, et ce qui fait que les Italiens, ils ont bien défendu. Quoi, voilà, on n'a pas su mettre le feu, je dirais, dans la défense italienne, et c'est ce qui a pesé beaucoup.
Et en plus, c'était l'équipe type qui était alignée. Alors, hormis Aldrit qui est absent, et évidemment, donc les absences de Dupont et Ntamack, mais qui sont pour tout le tournoi. C'était une équipe sur le papier qui devait gagner. Et on avait l'impression aussi que Fabien Galtier n'avait pas fait tourner, ce qui peut arriver certaines fois face à l'Italie. Il n'avait pas fait tourner parce qu'aussi il y a une recherche de match référence. Et en l'occurrence, c'est tout l'inverse qui s'est produit hier.
Totalement. C'est qu'aujourd'hui, on s'attendait à mettre peut-être 40 ou 50 points assez facilement, se prendre confiance en nous pour finir sur le Pays de Galles et l'Angleterre derrière. Et au final, on se rend compte qu'on se fait très peur. On reste sur notre faim.
Et c'est une équipe, l'Italie, qu'on avait battue 60-7 lors de la Coupe du Monde. C'est pas monnaie courante de mettre 60 points aux Italiens tout le temps. En revanche, il y a un juste milieu. Et on est passé vraiment à un poteau d'une défaite à domicile contre l'Italie, ce qui était, je le rappelle, jamais arrivé dans l'histoire. D'ailleurs, jamais l'Italie n'est venue faire un match nul aussi en France.
Mais je crois qu'ils ont fait, sur un match amical, en 97, ils ont dû venir gagner chez nous en match amical quand même.
Pas en compétition officielle.
Pas en compétition officielle. Mais
ça rappelle les années 2011-2012, quand il y avait des défaites à Rome dans le tournoi destination. Déjà, à l'époque, ça faisait tâche un peu. Il faut aussi saluer cette équipe d'Italie qui a fait un très bon match avec cet entraîneur Gonzalo Quesada, nouveau sélectionneur qui était bien connu. C'est presque un Français, Gonzalo Quesada, puisqu'il a été entraîneur pendant de longues années du Stade français. Donc il devait aussi bien connaître ce match, il devait avoir une saveur particulière pour lui aussi, évidemment.
Ouais, et puis sincèrement, dans le jeu, ils ne sont jamais affolés, ils ont toujours été à quelques points de l'équipe de France. Et en plus, je trouve dans les relances, ça joue au ballon, quoi. Et ça permettait, ils jouaient au pied qu'au dernier moment pour gagner du terrain, mais autrement ils relançaient de derrière et ça a pas mal déséquilibré nos Français, peut-être surpris aussi nos Français dans ce match.
En tout cas, il reste un match face au Pays de Galles et un match face à l'Angleterre. Eh bien, il va falloir essayer de se rassurer parce que ces matchs-là sont très importants, même si voilà, on n'a plus d'ambition dans le tournoi aujourd'hui. Qu'on termine de toute façon, entre guillemets, 3e, 4e, ça ne changera pas grand-chose. Se rassurer face à une équipe du Pays de Galles qui ne va pas très bien en ce moment, l'Angleterre à domicile, parce qu'après, les prochains gros matchs de l'équipe de France, ce sera qu'au mois de novembre.
Oui, il faut finir très bien ce tournoi de destination déjà pour se rassurer, puis aussi pour miser sur l'avenir, parce que voilà... ça c'est important aussi d'avoir un gros effectif à faire tourner pour que la cohésion se voit sur le terrain. Donc là on voyait bien les joueurs se chercher un petit peu et pour moi c'est les matchs qui vont arriver sont très importants pour l'avenir de l'équipe de France.
Bon, si on positive un petit peu, une actualité un peu plus positive et réjouissante, c'est le tennis de table français qui performe. Christian, c'est ton coup de cœur du week-end, cette médaille d'argent. L'Ouest France titre de l'argent, plein de promesses avant les Jeux. L'équipe de France par équipe de tennis de table français a remporté la médaille d'argent au championnat du monde. Une performance jamais vue depuis 1997 et du plaisir à voir jouer ces Français.
C'est vrai, un vrai coup de cœur pour cette équipe. Donc ça fait déjà quelques temps un petit peu dans l'outil médiatique. On entend parler des frères Lebrun, donc sans oublier effectivement leur coéquipier, donc Simon Gauzin, donc qui remporte une belle demi-finale. Et là, j'ai regardé la finale, c'était vraiment beau à voir, même s'il y a une défaite assez sévère sur 3-0. Mais bon, c'est vrai que face aux trois meilleurs joueurs en individuel au niveau mondial, je vais pas dire que c'est difficile d'exister, puisqu'on a failli même remporter un match avec Alexis Lebrun. Donc franchement, ouais, un beau coup de cœur pour une discipline qui est méconnue et dont aujourd'hui on peut avoir une visibilité. Aussi un petit coup de cœur particulier à l'équipe de France féminine donc qui a terminé en médaille de bronze et ça n'était pas arrivé depuis 1991.
C'est ça.
Voilà, donc je sais que cette discipline en France, il y a quand même des bons clubs. Il me semble qu'il y en a un à Fontenay d'ailleurs, un club de tennis de table.
Oui, il y a la Ferrière aussi en Vendée qui joue à un très bon niveau.
Et puis il y a un club de table en e-sport aussi de tennis de table à Fontenay. On avait reçu Alain Froland qui en fait partie, donc c'est important aussi de le signaler sur ce club. Et je trouve que c'est intéressant à l'approche des JO là, d'avoir ce sport qui est en train de se développer grâce aux deux frères Lebrun. Ça montre aussi que ça va peut-être attirer aussi des jeunes dans le futur à venir à ce sport là c'est ce qui va faire la différence. Et puis ça joue, quoi. Enfin, moi, j'ai vu, c'est pareil, j'ai vu hier la finale, une partie de la finale, quand ça s'envoie des balles à droite à gauche, ils sont 4 fois à 2-3 mètres de la table et puis ça relance, quoi. Alors j'ai pas les termes techniques parce que je suis pas assez spécialiste là-dedans, mais c'est vrai que c'est impressionnant.
Puis sur les ralentis, on essaye de voir un peu les mouvements sur les balles. C'est quand même assez impressionnant. Donc c'est vrai que les commentateurs expliquaient que s'il y avait une couleur de balles différente, on verrait peut-être avec du noir et du blanc, on verrait du gris, mais on verrait peut-être un petit peu plus les effets ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est même à regarder sans tout pouvoir voir et percevoir de ce qu'est un échange. Sur ce qu'eux vivent sur la table, c'est vrai que c'est très très impressionnant à regarder.
Les effets qui sont mis dans la balle, c'est assez incroyable. Ouais. Là, c'est là vraiment où on peut parler de tennis de table. Nous, on peut-être qu'on joue au ping-pong, eux, vraiment, c'est du tennis de table.
C'est
et c'est très spectaculaire quand on voit la caméra qui filme de côté, sur le côté de la table. Limite, les joueurs, parfois, ils sortent de l'écran, du champ de vision. Ils sont derrière, ils sont loin. C'est vraiment spectaculaire. Puis ce qui est intéressant vraiment avec le tennis de table, c'est que on a tous déjà joué au ping-pong dans notre vie.
On
sait ce que c'est et c'est très sympa. On peut jouer en intérieur, en extérieur. C'est une vraie discipline, un vrai sport qui mérite d'être connu, qui gagne à être connu. Et ce sont deux jeunes joueurs, Félix et Alexis Lebrun, pour vous resituer. Félix Lebrun, il est numéro 6 mondial, ce qui est une performance assez extraordinaire parce que dans le top 10, il n'y a quasiment que des Chinois.
C'est ça.
Et il y a son frère Alexis qui est 21e mondial. Alexis, c'est lui qui a failli gagner face au numéro 1 mondial,
ouais.
3-7-2, et il a même eu une balle de match.
Il a eu une balle de match, ouais, qui n'a pas été convertie. Donc après, voilà, ça reste des joueurs qui de l'autre côté, bon, quand ils ont eu leur balle de match, c'était cas sur du 10-6 ou du 10-5. Donc ils avaient 5, ils avaient une marge relativement sécure. Ils savaient aussi quand est-ce qu'ils prenaient leur temps mort. Ils prenaient généralement au début, justement, pour maintenir une forme de pression sur le joueur. Donc, non, puis même, du coup, il y avait aussi cette approche tactique qu'on ne connaît pas forcément, que j'ai bien aimé. Donc, on a pu découvrir pas mal de choses un petit peu aussi. Donc, maintenant, on a accès au discours des coachs avec les micros. Donc, avant, ce qu'il n'y avait pas forcément. Donc, voilà, c'est à la redécouverte d'une discipline que j'ai connue d'antan avec effectivement les grands noms français.
Jean-Philippe Gassien.
Et puis Jacques Secrétin aussi, encore avant.
On remonte dans l'histoire encore.
C'est très important.
Qui était, il me semble, je crois qu'il est venu en démonstration à Fontenay-le-Comte.
C'est possible.
Il me semble. Donc, vous voyez, donc c'est des grands noms, donc là, plus des années 80 et 90. Mais si la France peut venir. Alors, nous, en français, on est un petit peu chauvin, donc on se met à rêver par rapport au JO parce qu'on est à domicile. Mais je pense qu'il faut qu'ils fassent leur parcours et gagneront ce qu'ils gagneront. Je trouve que c'est très, très bien de les encourager, de les soutenir et pas forcément de les voir trop parce que les marches sont quand même très, très hautes et il n'y a pas besoin d'ajouter de la pression à ce qu'ils veulent faire en termes de performance et de résultats. Donc sachant qu'en équipe, on a besoin d'un troisième joueur fort. Donc, je pense que justement, Simon Gauzin peut être ce joueur-là à partir du moment où on les laisse effectivement s'exprimer et qu'ils puissent être au meilleur de leur forme pour les Jeux Olympiques.
Ce qui est important de rappeler, c'est qu'aux Jeux Olympiques, il y a des quotas par nation et que les Chinois qui ultra-dominent la discipline ne peuvent envoyer que deux athlètes.
Oui,
ça veut dire que potentiellement, ça laisse une troisième place en individuel, et puis qu'il y aura les disciplines par équipe, le mixte, les doubles. Donc voilà, plein de possibilités d'avoir des médailles.
Exactement.
Ce serait, pour la première fois depuis Jean-Philippe Gassien, justement, en 2000, à Sydney, eh bien, il y aurait peut-être une, voire plusieurs médailles pour le tennis de table français. Ça me fait penser, puisqu'on parlait de la pratique, je vais faire un petit clin d'œil à mon collège qui était à la Châtaigneraie, le collège Saint-Joseph, où le midi, sur la pause du midi, il y avait plein de table, de tennis de table, et des cours de badminton, et on jouait beaucoup, et ce qui fait qu'on nous amenait même vers les compétitions. Donc je trouve que c'est un sport qu'on pratique tous au collège aussi, au lycée, accessible.
C'est un sport accessible, c'est un sport, nous pareil, à Collège Saint-Joseph, à Fontenay, on avait les mêmes tables, je pense, mais oui, on jouait, c'est facile, il faut une raquette, une balle, et après un peu de technique. Il y a quelques clubs aussi qui existent dans le Sud-Vendée, donc il faut se rapprocher de ces clubs-là pour pouvoir jouer, et puis c'est un sport aussi de loisir. Alors on va peut-être se faire taper sur les doigts par les professionnels, mais c'est un sport où si on a une table de ping-pong chez nous, on peut facilement jouer, ou en vacances parfois, je pense aussi à ça, on y joue, et c'est une bonne acquisition aussi pour aller aussi vers d'autres sports comme le tennis ou badminton. C'est assez facile
et qui peut se jouer avec une pratique assez mixte en plus, le tennis de table.
Ouais, j'ai vu une étude récemment, du coup, par la médiatisation, alors je ne sais pas par quelle université, mais il y a une étude qui a été établie sur le rapport au neuromusculaire du tennis de table, qui est probablement le meilleur sport justement pour développer le mental, puisque forcément, moi, ça fait partie un petit peu des découvertes de mon métier, ouais, donc... qui est un des meilleurs sports, et du coup, si d'autres, par exemple, on peut imaginer des sportifs d'autres disciplines pratiquer justement le ping-pong pour se renforcer mentalement en termes justement de réactivité, et que ce soit à la fois le corps et l'esprit, comme peut le faire dans une méthode plus douce, par exemple le yoga. Mais là, disons qu'en rapidité, puisque ça demande effectivement beaucoup de réactivité, c'est un des meilleurs sports.
Merci Christian, et merci à cette équipe de France de tennis de table, donc, qui nous fait vibrer, on en attend beaucoup. Pour les Jeux Olympiques, Nicolas, une actualité maintenant un peu moins réjouissante, mais dont il est important de parler, puisqu'on va parler du cas de Albert Ellis, attaquant des Girondins de Bordeaux.
Oui, l'attaquant des Girondins de Bordeaux qui est actuellement placé en coma artificiel protecteur, comme c'est cité dans les différents médias. Et au bout d'une quarantaine de secondes de jeu, voire la minute, ce week-end contre Guingamp, il a eu un choc à la tête avec un défenseur. Et il était quand même éveillé sur le terrain, et après ils ont été obligés de le plonger dans un coma artificiel. Alors pourquoi j'ai pris cette actualité là c'est tout simplement, je pense aussi au rugby tout à l'heure quand on en parlait avec le tournoi Destination, mais le jeu de tête reste compliqué, et ça provoque souvent des traumatismes qui sont très très important. Je pense au rugby où ils ont arrêté les plaquages. Voilà, je pense à Danty hier aussi qui plaque haut, qui prend rouge, qui est tête contre tête. Albert Ellis hier sur un contact anodin, hein, sur un centre, il met sa tête, il y a un tête contre tête. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un élément important du corps et qui peut causer beaucoup beaucoup de soucis. Les Girondins de Bordeaux ont communiqué hier en disant que pour l'instant ils donneraient pas plus de nouvelles parce qu'ils vont voir l'évolution de l'état du joueur, mais c'est important de préserver, de se protéger. Parce qu'on nous a toujours dit qu'on perdait nos neurones quand on faisait des têtes au foot, par exemple. On a toujours entendu un peu ça, est-ce que c'est réel ou pas, mais aujourd'hui, en fait, les traumatismes qu'on peut avoir après carrière sont difficiles et causent beaucoup de soucis à des joueurs pros et amateurs aussi.
Comment est-ce qu'on peut appréhender ça? Parce que là, c'est vrai que c'est un contact qui est a priori anodin. Un tête contre tête, comme ça arrive très souvent sur des terrains de foot et à tous les niveaux. Quand tu as parlé de Jonathan Danty qui prend carton rouge, le rugby a pris ce problème, on va dire, à bras le corps, où dès que le plaquage est un peu haut, dès qu'il y a tête contre tête, c'est carton rouge. Et c'est la moindre des choses, parce que je peux vous assurer, quand vous regardez des images 3D du cerveau, quand il est plaqué, le cerveau qui fait un mouvement dans le crâne comme ça, c'est très dangereux. Donc même dans le foot, on est amené à ça. Alors moi personnellement, j'avais jamais vu ça, hein.
Non, c'est la première fois. Puis je pense qu'ils se sont fait, ils n'avaient pas pris mesure de la blessure dès le début, surtout médiatiquement, on va dire, parce que nous on n'était pas sur le terrain. Je pense qu'il a été accompagné. Là, il est structuré dans un club pro, donc les médecins sont aussi arrivés vite. Mais voilà, dans le monde amateur, on y joue tous les dimanches. Tant que les pompiers arrivent, tant que les urgences arrivent, ça peut mettre un peu plus de temps que ce qu'a connu Albert Ellis. C'est ce qu'il faut aussi retenir. Comment le prévenir? J'en ai aucune idée. J'ai pas de solution, parce qu'on va pas interdire les contacts de la tête, on va pas demander à jouer qu'au sol, au foot. Mais je pense que c'est plutôt au niveau sécurité, au niveau des urgences, au niveau des instances, peut-être avoir des formations autour, ou peut-être des éducateurs un peu plus formés, ou au premier secours, ou des choses qui peuvent être mises en place comme ceci pour arriver tout de suite directement sur le cas isolé, quoi. Mais là au niveau du foot, je sais pas, j'ai pas plus d'infos. Je sais pas si vous en avez, vous, ou si vous avez des idées, mais ça serait intéressant à savoir parce que ça fait peur un peu.
Certains pays interdisent le jeu de tête pour les enfants jusqu'à un certain âge. Alors après, le problème, c'est que si on enlève les têtes, on ne peut pas jouer au foot sans faire de tête. Donc c'est là aussi où c'est aussi les limites du problème. Parce qu'au bout d'un moment, on sera forcément amené à faire des têtes.
Après, on est dans le paradoxe aussi de l'être humain. Et parce que si demain, on devait changer la discipline du foot telle qu'elle existe aujourd'hui, ça serait peut-être un petit peu compliqué. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ont eu exactement le même débat. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement et concrètement comme action. Parce que dans le football américain était reconnu comme la discipline où l'espérance de vie était la plus faible, en fait, pour les sportifs, de part, donc même avant la boxe. Donc avec effectivement des séquelles, alors pourtant il y a quand même des protections dans le foot américain qui sont quand même assez remarquables. Mais au vu du nombre de chocs réalisés dans l'absolu, alors après, là sur le cas d'Albert Ellis, c'est toujours pareil. En fait, il se retrouve que son cas, c'est sur un type de coup à un endroit, on avait parlé d'Axel Alétru qui est tombé pile poil à l'endroit où il fallait pas. On peut pas prévenir de tout, c'est compliqué, mais par contre, c'est vrai que c'est important d'avoir conscience qu'on puisse préserver autant que faire se peut la santé physique, la santé mentale des sportifs et des sportifs pour l'ensemble de leur carrière. Et donc, du coup, aussi au niveau amateur, comment on fait en tant que coach pour y arriver? Ça demande des moyens, des prises en charge de formation, en effet, pour pas laisser l'éducateur et le club en face que de responsabilités qu'il ne peut pas toujours prendre, et on ne peut pas tout contrôler. Hein. Regardez, maintenant on a bien les comment dire, justement pour les problèmes cardiaques, on ne sait pas où sont les défibrillateurs,
pas facile à dire.
Ouais, effectivement, on ne sait pas toujours où sont, alors qu'il y a des formations qui sont quand même faites sur ça depuis maintenant quelques temps. Donc voilà, à part être dans le... Alors, la prévention, c'est compliqué.
Il y a les protocoles de commotion cérébrale qui existent maintenant au niveau du foot, où ils ont le droit de faire un changement là-dessus. Normalement, s'il y a protocole de commotion cérébrale, ils ont un remplacement en plus.
C'est que je pensais au rugby, évidemment. Le protocole de commotion au rugby, de base, c'est là où on l'a connu, on va dire, la première fois, où un joueur, alors au rugby, il sort 10 minutes Et si au bout de ces 10 minutes, ils n'arrivent pas à répondre à une certaine série de questions, on a des images d'un protocole de commotion. En fait, il se retrouve dans une salle, il est isolé du stade. Et par exemple, la personne va lui donner une série de 5 ou 6 chiffres qu'il doit être capable de restituer. Donc, c'est tout un tas de questions. Et c'est très important, puisque du coup, on voit des joueurs sortir sur protocole de commotion et après et potentiellement être absent 2 semaines, 3 semaines. Donc c'est aussi la santé des joueurs, des joueuses, des athlètes qui est importante. Et ça concerne toutes les disciplines. Donc voilà, on a une pensée aujourd'hui pour Albert Ellis et on espère surtout eh bien, que cette situation va s'arranger. Actuellement en coma artificiel.
Moi, je voulais revenir justement par rapport à ça. Je prends la comparaison avec la Formule 1, où les pilotes de Formule 1 s'entraînent justement à se muscler le cou pour pouvoir supporter ce qu'on appelle la force centrifuge. Et donc, ils ont beaucoup de pression sur le niveau du cou. Et je pense que la plupart des blessures, que ce soit en rugby ou en foot, c'est surtout au niveau du cou. Parce que ça fait souvent ce qu'on appelle le coup du lapin. C'est-à-dire que le joueur, bah, lui, s'apprête à taper la tête contre la balle. Puis d'un coup, au moment qu'il fait son effort, il reçoit un coup de tête de l'autre côté, ce qui fait que c'est les vertèbres qui mangent. Et je pense qu'on devrait peut-être accentuer justement à ce que les joueurs en rugby ou en foot se musquent principalement le cou pour pouvoir justement encaisser un coup de tête ou un coup de coude aussi hein, également. Et je pense que ce serait peut-être une action à travailler.
Bon, et bien sans transition, on va parler maintenant de l'événement, l'actualité du mois de mars, l'événement du 17 mars qui aura lieu à Fontenay-le-Comte, les championnats de France de marche athlétique.
Sud Vendée Sport, l'actu de la semaine.
Nicolas, tu as interviewé Valérie Nivet et Laurence Berton. Valérie Nivet, présidente du club de marche athlétique de Fontenay-le-Comte, Laurence Berton, athlète. Eh bien, il y a un événement donc, qui aura lieu le 17 mars, ce sont les championnats de France. Très concrètement, on aura des courses 20 km marche, 35 km marche, et avec des billets pour les Jeux Olympiques, notamment sur le 20 km marche. Nicolas, cet événement donc organisé par le sport athlétique fontenaisien.
C'est exactement ça, j'ai été les interviewer, car c'est un gros événement, le championnat de France qui arrive le week-end du 17 mars. Il faut savoir que dans l'interview, vous allez l'entendre, il y a par exemple le président de France de l'athlétisme qui descend. Ici, c'est un gros événement, donc ils sont en ordre de marche, ils ont quelques ambitions aussi sur ce championnat de France, déjà dans l'organisation. On n'organise pas forcément un championnat de France comme ça, mais il y a une grosse structure qui est en train de se mettre en place avec plein d'événements autour pour faire connaître ce sport. Et puis comme tu l'as dit, c'est qualificatif pour les JO et bah, toutes les grosses pointures vont être présentes ici. Ça va apporter de la visibilité surtout au club du SAF et ça va permettre aussi au public qui doit venir nombreux. Ils attendent énormément de public
en espérant du beau temps.
C'est ce qu'ils disent, mais il faut absolument que le public soit là au rendez-vous pour montrer que la marche est importante et que le club est capable aussi d'organiser des gros événements. Donc n'hésitez pas, si besoin, à venir le week-end du 17 mars.
Eh bien, on va les écouter tout de suite.
On compte à peu près 350 adhérents parce qu'en fait, on a 3 sections différentes dans le club. On a tout ce qui est compétition, donc avec les groupes de baby-athlés jusqu'à nos masters. On a le groupe des runners, donc ils font beaucoup de courses sur route, qui est géré par Stéphane Breteau. Et le groupe de marche nordique, avec comme responsable Daniel Chopin. Et on a aussi un groupe athlée santé, qui est encadré par Juliette Baudouin, qui est dédié aux personnes qui veulent reprendre de l'activité en douceur. Donc c'est un groupe qui marche beaucoup, qui a bien évolué depuis 2 ans. Et voilà, on est très contents de ce groupe en tout cas.
Racontez-nous un peu l'histoire de ce club, qu'est-ce qu'il a fait. Et puis aussi, est-ce que vous avez des résultats en compète que vous pouvez nous citer ou des choses qui marchent ici au club?
Ah ben oui, on a des bons athlètes. Déjà, Laurence Berton qui est à côté de moi, qui est double championne de France quand même du 5000 et du 10 000, et qui a des bons résultats, mais pas qu'en master, même au niveau national. Donc déjà, c'est une belle vitrine pour nos marcheurs. Après, comme athlète très connue dans le club, il y a Léa Zomigno, qui a été sélectionnée, qui a eu une sélection internationale il y a 2 ans, qui est lanceuse de disques. On a eu des bons athlètes comme Maëva Vereden, qui est partie sur Paris malheureusement cette année. Dorian Chéniaud, notre petit américain, notre perchiste, qui est parti faire ses études depuis 3 ans maintenant aux États-Unis, mais qui est toujours fidèle au club. Donc à un niveau national aussi, qui est toujours au top, mais bon, comme il est aux États-Unis, il peut revenir que l'été, donc il fait les compétitions que l'été. Et on a plein de jeunes qui percent, qui vont au championnat de France régulièrement. On a des bons résultats au niveau régional. C'est tous pratiquement des champions régionaux. Mais voilà, on est très contents des résultats de nos jeunes.
Quels sont les objectifs du club en particularité ?
Objectif, mais déjà on a toujours un challenge tous les ans, c'est de faire les interclubs. On est actuellement avec l'ASV. L'ASV regroupe le club de Luçon et Fontenay. On est actuellement en National 2. Donc on rencontre tous les ans les clubs du même niveau que nous dans la région. On essaye de se maintenir à ce niveau-là. Donc déjà l'objectif cette année, ça va être rester en National 2. Après, les objectifs, ça va être de faire un beau championnat de France de marche qui va venir. Et surtout, toujours amener nos athlètes à toutes les belles compétitions qui vont se présenter au championnat de France. Les runners, je pense qu'ils ont toujours des beaux challenges à faire sur les pistes, sur les trails et voilà.
Est-ce que vous avez des projets en cours? Forcément, on va parler de ces championnats de France, mais est-ce que vous avez d'autres projets qui sont en cours au niveau du club?
Les projets, en cette année olympique, on est partenaire quand même avec la mairie. On intervient dans les écoles bénévolement, faut le dire. Dans toutes les écoles de Fontenay pour adhérer au projet de terre de jeu qu'est Fontenay-le-Comte. Donc on leur fait des cours d'athlétisme à tous nos jeunes dans les écoles primaires. Le projet, le jour de l'arrivée de la flamme olympique à Fontenay, c'est pareil, on va être partenaire pour faire une activité dédiée au sport olympique. On va faire une animation qui va être dédiée à toutes les écoles. Le projet compétition Fontenay-le-Comte, on parlera de la marche après, qui est le plus gros challenge, mais on va aussi faire un meeting régional au mois de juin, qui va regrouper tous les meilleurs athlètes de la région ici à Fontenay. Ce sera le vendredi 28 juin. Et après, c'est amener nos jeunes le plus possible au championnat de France, quoi.
Alors on va en parler de ces championnats de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on accueille un championnat de France ici? Qu'est-ce qu'on va y trouver sur les dates? Nous rappeler un petit peu toute l'organisation de ces championnats de France.
Alors pourquoi un championnat de France à Fontenay-le-Comte? Parce que la marche athlétique s'est bien développée sur le club. Donc on avait à cœur de mettre en valeur ce parent pauvre un petit peu d'athlétisme qu'est la marche. Et on a travaillé depuis février 2023 pour monter le dossier. On a eu le retour de la fédération en octobre, sachant que nous disant que le dossier était validé. Et donc après, c'était tout mettre en place pour pouvoir accueillir ce championnat de France. Entre les deux, le président de la fédération, André Giraud, a souhaité faire de ce championnat de France de marche athlétique un festi-marche, donc regroupant le championnat de France de marche nordique et de marche athlétique, mettre en valeur aussi la marche nordique, la marche sportive et puis la marche active. Donc voilà, une grande, grande famille de la marche. Donc ça nous a obligés, nous, à revoir un petit peu notre copie, à demander de nombreux bénévoles, à faire une grosse, grosse organisation qui nous prend quand même pas mal de temps. C'est un chouette défi, mais qui nous occupe beaucoup.
Alors qu'est-ce qu'on va y retrouver pendant ce week-end de marche?
Alors, le week-end de marche est le 16 et 17 mars 2024 au niveau de la Plaine des Sports. Donc le samedi sera dédié à la marche nordique avec un open le matin à 11h, un open ouvert à tous ceux qui veulent marcher. L'après-midi, ce sera le championnat de France de marche nordique qui, lui, est ouvert seulement à ceux qui ont fait quatre compétitions avant dans l'année, des compétitions balisées par la Fédération française de marche nordique. Et puis, le dimanche, on a la journée dédiée à la marche athlétique avec le 35 km qui commence dès 9h. Ensuite, on aura en alternance les 20 km hommes et femmes et puis le critérium qui est ouvert à tous les jeunes, avec les minima bien sûr. Et l'après-midi, on aura un open pour ceux qui veulent aussi faire de la marche athlétique, 10 km.
Et en cette période de Jeux Olympiques, c'est aussi le ticket pour accéder aux JO?
Oui, alors vous l'avez peut-être vu dans les rues de Fontenay avec nos affiches. C'est en effet qualificatif pour les Jeux Olympiques. C'est un passage obligatoire pour nos athlètes de marche athlétique. Donc on va recevoir les grosses pointures de la marche athlétique à Fontenay dimanche. Donc venez les voir.
Alors si on veut venir les voir, le public, il doit se positionner où? Quel va être le parcours? Comment on peut s'y joindre?
Alors le samedi, c'est la Plaine des Sports. Le parcours de marche nordique est dans la Plaine des Sports. Donc voilà, le mieux, le plus facile sera se garer sur la place de Verdun et de venir à pied à la Plaine des Sports. Et le dimanche, le parcours, il sera devant le PMU et puis le Collège Viette. On aura 500 mètres aller-retour, donc une piste de 1 km ici. Et les gens pourront se poster tout au long du parcours pour venir encourager les marcheurs.
Et pendant ce week-end, est-ce qu'il y aura d'autres animations prévues?
Alors bien sûr, oui. Donc pour tous les Mais pour tous ceux qui souhaitent, il y aura une initiation à la marche nordique. Il y aura donc ce qu'on appelle le binordique avec tir à la carabine, un petit peu comme on voit au biathlon en ce moment à la télé. Donc tir à la carabine laser et puis une boucle de marche nordique. Il y aura du sport santé, donc animé par par Juliette qui travaille au club. Et il y aura une marche active de 5 km en ville. Tout ça gratuitement, tout ça gratuit, pardon. Donc n'hésitez pas à venir.
Le président, notre président de la FFA qui va être là, présent pour tout le week-end et qui souhaite faire de cette marche active. Donc on va aller visiter tous les monuments de Fontenay. Et c'est rendez-vous à 14h30 à la Plaine. Donc on espère beaucoup de Fontenaysiens pour l'encadrer, parce que c'est quand même exceptionnel, notre président qui vient à Fontenay. Donc voilà.
C'est un gros événement là pour le club.
Ah oui, oui, oui. Ben oui, ça n'a jamais été aussi important. Déjà, la présence du président de la fédération à Fontenay-le-Comte, pour nous, c'est déjà un gros honneur et c'est exceptionnel, oui. Il y aura aussi quand même, pour attirer les gens, pour qu'ils ne soient pas... on a fait un village athlète, enfin un village partenaire où il y aura des choses à déguster. Et donc il y a une sorte d'animation quand même, ce ne sera pas que des marcheurs à venir voir. Il y aura aussi de quoi boire et manger.
Donc une belle visibilité pour le club. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes les deux pour ce championnat de France, mais aussi pour le club?
Mais moi, j'espère des beaux résultats pour nos marcheurs qui obtiennent déjà leur qualification pour les JO. Et puis surtout, plein de monde à venir les voir et les encourager. Ce serait dommage qu'il n'y ait pas personne pour les encourager. Donc j'espère que tous les Fontenaysiens et aux alentours, vous allez pouvoir venir.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant que sportive et puis en tant qu'aussi organisatrice?
Alors sur ces deux jours-là, moi je ne serai qu'organisatrice, je peux pas me permettre de faire la compétition, c'est un petit peu dommage mais c'est comme ça. La première chose à souhaiter c'est du beau temps, là c'est très terre à terre mais vraiment il faut qu'il fasse beau et puis que tout le monde prenne son pied, prenne du plaisir à venir découvrir ces disciplines un petit peu particulières et puis venir participer avec nous.
Vous avez noté la date, donc le 17 mars, c'est championnat de France, 20 km marche, 35 km marche à Fontenay-le-Comte, Digue Radio sera évidemment présent. Des résultats, Olivier, puisque les conditions météo n'ont pas été très bonnes ce week-end. Malgré tout, on a joué sur quelques terrains de foot.
Oui, effectivement, en régional 1, groupe P, Mareuil a fait match nul à Sautron, 0 partout. Mareuil est 6e avec 18 points. Changé 53 est en tête de ce championnat. Il y avait également du basket. Puisque l'équipe de Luçon jouait ce week-end.
L'équipe de Luçon qui est en National 3, on le rappelle.
National 3 masculine poule D. Donc Luçon a été gagné à Cognac 95 à 84. Luçon est 5e au championnat avec 31 points et à 3 points du premier Touraine.
C'est une bonne saison. Un petit mot quand même sur Luçon. Christian, on les avait eu en interview cette saison dans le Sud Vendée Sport. On rappelle qu'ils sont promus. Hein. C'est une grosse saison pour eux.
Ouais, et puis on a été aussi sur place hein, pour voir le derby contre Chambretot donc au mois de novembre depuis quelques petites défaites, mais j'ai envie de dire ça revient dans une logique, donc on est donc là l'équipe elle est quand même 3e ex aequo hein, donc enfin 5e au niveau des écarts avec les autres équipes. Je pense qu'il y a du goal average qui doit jouer dedans, mais non, l'équipe est à une bonne place avec un groupe jeune, dynamique. On voit qu'il y a la ferveur au niveau du public. Je pense qu'avec Digue on va y retourner.
Pas de souci, on ira.
L'appel est passé
mais on est toujours bien accueilli là-bas.
Et puis Olivier Duhande également.
On a signalé une masculine poule 2. Pouzeau, j'ai cherché un bon résultat quand même. Un match nul à Hennebon qui est quand même 5e du championnat. Malgré tout, Pouzeau reste dernier avec 18 points.
Merci Olivier pour ces résultats. On notera également qu'en National 2 dans le Nord-Vendée, les Herbiers s'est incliné 2-0 sur la pelouse de Bourges. Les Herbretais ont lâché leur fauteuil de leader. Ils sont 2e à 1 point de Libourne en sachant que la Roche-VF a un match en retard avec le Bandin, malgré tout 2e et 3e de cette poule très ouverte avec comme enjeu une montée en National. Le National où Niort continue de performer. Les Chamois se sont imposés 3-0 le week-end dernier sur la pelouse d'Épinal. Et avec nous pour en parler, le défenseur et capitaine des Chamois Niortais, Quentin Bernard.
Sud-Vendée Sport, l'invité.
Bonjour Quentin Bernard, vous êtes défenseur, capitaine de cette équipe des Chamois Niortais. Niort qui a été s'imposer 3-0 sur la pelouse d'Épinal, une victoire avec la manière, dans des conditions en plus pas évidentes, un terrain assez difficile.
Oui, bonjour à tous. Oui, après on a l'habitude de s'entraîner sur ce genre de terrain en ce moment, donc on avait l'impression d'être à la maison. Et puis après on a abordé le match, voilà. Il n'y a pas eu 1000 discours avant le match. En général, quand ça parle pas trop dans un vestiaire, c'est que c'est bon signe. Donc je suis très content pour l'équipe. Une nouvelle victoire à l'extérieur, c'est ce qui a fait un peu défaut sur la phase aller. Donc là, c'est de bon augure pour la suite.
Et ce qui est intéressant pour vous, c'est que pour l'instant, en 2024, il y a 6 matchs et il y a 0 défaite. 4 victoires et 2 nuls. La dynamique donc est plutôt positive en ce moment.
La dynamique est positive. Il y avait une petite incertitude après ces vacances de Noël parce qu'on a terminé sur l'année 2023 sur 2 défaites. Et c'est vrai qu'on a été assez sérieux depuis la reprise. On en parle un peu entre nous parce qu'on a perdu qu'un match, c'est contre Angoulême le dernier match amical. Donc non, c'est voilà, quand les séries comme ça se s'allongent, c'est toujours bon signe. Donc pourvu que ça dure le plus longtemps possible.
Vous parliez du fait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de mots dans le vestiaire avant le match contre Épinal. Ça peut aussi s'expliquer par le fait que bien la dynamique collective, l'équipe qui commence les matchs est souvent la même. Finalement, il y a une régularité aussi et un vécu collectif qui fait que bien tous les automatismes notamment sont plus faciles à trouver.
Oui. Après voilà, sur ce match-là, faut pas oublier que c'est Belka d'Ali Amar qui ouvre le score. C'était le seul changement par rapport au match précédent, et on voit que voilà, quand Belka remplace Tyrone, il y a pas de diff 1-1 et c'est toujours le même résultat actuellement. Donc c'est aussi ça qui est encourageant pour la suite, quand les remplaçants ou ceux qui jouent un peu moins rentrent et font le boulot. C'est encourageant.
Et puis forcément, il y a aussi le facteur expérience qui joue dans cette défense aux côtés de Bruno Ekwelemanga, Paul Delecroix, les joueurs les plus expérimentés qui encadrent, on va dire, les jeunes joueurs, notamment devant. C'est ce qui fait aussi pour l'instant la réussite peut-être de Niort cette saison.
Tu as mis des mots. Voilà, tu as parlé d'expérience. Les jeunes sont un peu moins respectueux, parlent de vieux. Donc c'est vrai que on a pas mal de vécu tous les trois. Après, surtout Bruno, voilà, en première ligue, c'est encore un autre niveau. Mais c'est vrai que je pense qu'à nous trois, on a certainement autant de matchs en pro que tout l'effectif cumulé. donc non, c'est bien. Après, en fait, c'est un peu donnant parce que eux, ils ont aussi cette insouciance de la jeunesse et cette envie de tout casser et parfois ils réfléchissent un peu moins et ils foncent, alors que nous, on est un peu plus mesurés. Quand je vois voilà le pardon du mot, mais le bordel qu'ils font à chaque victoire à domicile, on a l'impression qu'on a gagné la Coupe d'Europe ou la CAN, et en fait c'est qu'un match de plus. Donc qui garde cette insouciance, et à nous aussi de faire que le groupe garde les pieds sur terre pour continuer d'avancer.
À domicile, justement, on voit aussi de plus en plus de monde au stade René Gaillard. L'affluence est toujours très belle. Ça doit faire plaisir aussi de retrouver, pas forcément aussi de par les résultats, mais une certaine ambiance, une certaine atmosphère à René Gaillard.
Oui, j'ai connu René Gaillard presque plein à tous les matchs, même quand on était en national. Donc c'est vrai que à la J1 contre Avranches, quand il y avait 500 personnes, ça m'a fait drôle. Après, je veux pas ni tirer la couverture au groupe. Là-dessus, on en doit beaucoup au staff aussi, le coaching de Berger, à Azo, Pascal Landé, voilà. Je pense je dirais pas tous les noms, mais je pense au staff en général. Ils ont aussi fait en sorte que les gens reviennent en proposant une idée de jeu assez offensif et assez fédérateur. Donc si les gens reviennent, c'est qu'ils se retrouvent un peu dans leur équipe. Et puis peu importe le niveau, j'ai toujours connu plus ou moins d'affluence à René Gaillard, mais les Niortais, je pense que aiment les Chamois. Donc c'est vrai que ça fait quand même plaisir qu'il y ait un petit peu plus de monde qui vienne au stade. Et puis surtout, si on a envie qu'il y ait encore plus de monde, ça va dépendre que de nous, entre guillemets. C'est à nous d'essayer de faire revenir le plus de monde possible à domicile. Ça passera par des bons résultats comme comme actuellement. Et puis, voilà, on ne se donne pas de limites, donc on verra jusqu'où ça nous mènera.
New York est la meilleure attaque hein, du championnat, c'est vrai, avec le Red Star. Le Red Star, 5 points de retard donc pour les Chamois. Il y a 4 points d'avance sur Martigues au classement. On est à la 22e journée, il reste 12 matchs cette saison. La montée, est-ce que vous en parlez?
Sincèrement, quand on a gagné vendredi, les vieux, comme on les appelle, moi au mois de juillet, sincèrement, j'avais peur qu'on descende. Parce que c'était un groupe très jeune. Mais voilà, Philippe venait d'arriver avec son staff. Quand une équipe descend, moi j'ai toujours le traumatisme d'il y a 10 ans, quand les Chamois. J'en faisais partie quand on est descendu en national. On est redescendu en CFA. Donc sincèrement sur la ligne de départ et là je reviens à vendredi. Quand vendredi j'ai vu qu'on avait 41 points, j'ai soufflé et je me suis dit on sera en national au moins l'année prochaine.
Oui parce qu'il y a 6 équipes qui descendent, faut le rappeler.
Ouais voilà donc je pense qu'avec 41 points on est tranquille. Et après, il faut pas non plus faire la fine bouche. C'est déjà quelque chose qui est quasiment acquis. Et là-dessus, on peut être soulagé. Et après, la Ligue 2, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce groupe, déjà, faut pas trop leur fixer de limites. Et faut pas trop non plus fixer d'objectifs, parce que après, on s'est dit, il reste 12 matchs, il faut gagner combien de matchs, nanana. On n'est pas dans les calculs d'apothicaire aujourd'hui. On est fin février, on est quasiment maintenu, c'est déjà un soulagement. Après, une fois que t'es maintenu, Jean-Marc Furlan me disait, même quand je joue la montée, d'abord, j'attends d'avoir mes 41 ou mes 42 points, et puis après, on lâche les chevaux et on ne sait pas où on s'arrêtera. Donc, on va déjà essayer de faire un bon match à domicile contre Marignane vendredi, et puis après, voilà, il reste 12 matchs, on est aux deux tiers du championnat. Si on continue, j'ai envie de te dire, si on continue sur cette lancée à faire une victoire tous les deux matchs, je pense qu'il y aura une jolie surprise à la fin. Mais pour l'instant, franchement, c'est encore un peu tôt. Peut-être qu'à 4 ou 5 matchs de la fin de saison, quand on aura affronté les gros, on aura plus, on aura une idée. Mais dans le championnat national. On le voit bien, Nancy était complètement à la ramasse, Coréa est arrivé, et aujourd'hui ils sont dans le wagon pour monter. Il y a Orléans qui revient bien, il y a Sochaux, il y a le Red Star et il y a nous. Donc voilà, on a commencé à entrouvrir un peu la porte. Après, faut savoir si on a envie de péter la porte et de foncer les deux pieds devant ou sinon on sait pas trop ce qui se passera. Je veux pas trop mettre d'objectifs comme ça, mais bien sûr que quand t'es deuxième depuis 4 mois, tu en discutes. Mais ce qui fait notre force, c'est de prendre match après match et de pas trop calculer pour le moment. Laissons ça au staff et aux dirigeants de se dire voilà de une victoire tous les deux matchs, voilà, de faire les calculs. Nous aujourd'hui, on a 41 points, on est quasiment maintenu. Et puis après, je te dis, faut si on peut atteindre le ciel bleu là en ce moment, c'est compliqué, mais faut pas se fixer de limite. Donc si on peut aller au bout, on fera tout pour, quoi.
Et c'est vrai que dans le championnat national, y a de très belles équipes. Il y a un peloton juste derrière vous, que ce soit Orléans, Nancy, Sochaux, Dijon, Nîmes, des clubs qui ont tous connu la Ligue 2 et même la Ligue 1 ces dernières années. Pour terminer cette interview, Quentin, un mot sur le niveau global de championnat national, parce que tu as connu le championnat il y a 10 ans, mais ça devait être différent, on va dire, par rapport au championnat actuel.
Mais j'en parlais avec un de mes amis d'enfance il y a une demi-heure, là, en voiture, en rentrant de l'entraînement, avec Simon Evras, pour ne pas le citer. Il me dit ouais, quand encore 3-0 à l'extérieur. Après je lui dis, alors soit c'est le fait que j'ai accumulé de l'expérience et que je vois le foot aujourd'hui d'un autre œil que quand j'avais 20 piges, mais je trouve le championnat national un peu plus homogène. Voilà. Mais avant, il y avait vraiment des grosses écuries qui dominaient et qui remontaient rapidement. Là, on voit, hormis le Red Star cette année, je pense, qui a déjà fraudé l'accession l'an dernier. C'est assez plus franchement, voilà, c'est, on le voit, ben là, comme Épinal est allé taper Sochaux, voilà.
Vous avez fait nul à Choulet, qui est dernier aussi.
Un 10 sur 10 à domicile. Ouais, voilà, nous qui avons fait match nul à Choulet il y a deux semaines, on voit que les équipes du bas de tableau vendent cher leur peau. Et puis, pour en revenir sur la conclusion de ta question d'avant, c'est pour ça que je suis très content que les Chamois aujourd'hui, au mois de février, aient 41 points et soient à l'abri, quoi. Donc, c'est un championnat qui est toujours un peu compliqué. On le voit là, on est parti pendant 3 jours, en bus, en train.
Oui.
C'est ces conditions-là qui sont compliquées.
Bon, merci beaucoup en tout cas, Quentin Bernard. On vous souhaite le meilleur évidemment pour cette fin de saison. On viendra aux nouvelles. Et puis déjà, eh bien, il y a ce match vendredi à René Gaillard face à Marignane Gignac. N'hésitez pas à prendre vos places. Merci Quentin Bernard, bonne fin de saison.
Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps.
Les Chamois donc deuxième de ce groupe de National. Franchement Nicolas, c'est vraiment une bonne surprise quand on sait que c'est une équipe qui descend de Ligue 2 et où la transition n'est pas toujours évidente quand on doit se relancer comme ça, jouer la remontée juste après être descendu.
Ouais, on en avait parlé début janvier ou même au mois de décembre avec Philippe Hinchberger, qu'on avait reçu en tant qu'invité sur le Sud Vendée Sport, le coach des Chamois. Lui, l'objectif n'était pas forcément là au départ, c'est-à-dire que c'était plutôt de réaliser une bonne saison avec un groupe plutôt jeune. On n'oublie pas aussi qu'ils ont eu quelques blessures, dont une assez grave du joueur
Kylian Gasnier,
l'ancien des Herbiers, qui faisait un très très bon début de saison. Ils sont invaincus en 2024 et là ils viennent de mettre 3-0 à Épinal, donc c'est assez consistant. Il va falloir que ça continue. Maintenant je pense qu'ils ont déjà par exemple 11 points d'avance sur Sochaux qui est 6e. Pourquoi je prends Sochaux? Parce que je me souviens de la Coupe de France où Sochaux, le coach de Sochaux avait dit dans les vestiaires filmés par les caméras de Bein qu'il voulait absolument pour le public monter en Ligue 2. Donc voilà, il va falloir être consistant jusqu'à la fin pour les Chamois pour espérer monter maintenant en Ligue 2. Puis voilà, il y a de la stabilité, il y a une structure, ça fait du bien.
Ils sont deuxième avec 5 points de retard sur le Red Star qui est un petit peu intouchable dans le championnat. C'est assez spectaculaire Christian quand même d'avoir un club qui comme ça arrive à se redresser alors qu'on avait l'impression il y a un an quasiment jour pour jour que rien n'allait. Et c'est aussi la stabilité apportée par un homme, Philippe Hinchberger.
Ah oui, je pense que tu as donné le nom de la personne qui est la pierre angulaire de ce projet. Et Niort, tout simplement, avec le chef d'orchestre Philippe Hinchberger, arrive à être un club, en fait, pour moi, de Ligue 2. C'est-à-dire que leur place est en Ligue 2, comme ça l'a toujours été. Et quelque part, la descente avec tout ce qui s'est passé, ça s'est passé. Et peut-être que ça a eu une bonne... C'est une bonne raison de rebondir et d'assainir justement en repartant sur un projet avec des jeunes, avec de l'expérience, comme Quentin Bernard, comme le coach, avec des valeurs. Et je pense que c'est ce qui fonctionne, c'est que les valeurs reviennent en fait au centre du jeu. Et donc les Chamois Niortais, on leur souhaite en tout cas de repartir là où ils sont bien, c'est-à-dire en Ligue 2 et d'être dans un championnat en tant qu'équipe poil à gratter, dans un championnat qui leur correspond parfaitement bien, quoi.
Olivier ?
Bien, oui, on peut leur souhaiter le meilleur pour Niort. Après, il faut surtout compter effectivement avec les blessures et effectivement l'effectif derrière pour pouvoir continuer à dérouler jusqu'à la fin de saison. Niort, effectivement, c'était un club qui a toujours été habitué à la Ligue 2, avec quelques descentes en National de temps en temps. C'est comme ça pour ces clubs, c'est-à-dire que il y a des générations et après voilà.
L'équilibre financier aussi.
Oui, voilà, des puis financiers. Puis il faut sans cesse se renouveler, ne pas vivre sur ses acquis, surtout, de toujours pouvoir régénérer les jeunes pousses derrière pour pouvoir continuer la marche en avant. Ça peut être serré jusqu'à la fin. Des fois, il suffit qu'il y ait une mauvaise passe, une ou deux défaites, et puis ça y est, il y a le petit grain de sable qui est là. Et le Red Star n'est pas invincible, puisqu'ils ont déjà été battus. même des fois par des petites équipes. Donc voilà, j'espère que Niort remontera très vite en Ligue 2.
Merci à tous pour cette page et on va terminer cette émission avec, alors là on change complètement d'univers, on va parler d'autres sports, d'un autre type de sport. On avait fait d'ailleurs une émission il y a plusieurs semaines maintenant sur comment se motiver pour faire du sport en hiver et quand il fait mauvais temps. Sinon il y a un moyen très simple, c'est de faire du sport en salle, en intérieur. Et parmi ces sports qui existent et qui se développent, on voit notamment en ce moment un engouement pour les fléchettes, mais j'en profite puisque Christian est avec nous, Christian qui est entraîneur de l'équipe de France U18 de billard anglais. Le billard qui est un sport alors déjà aux multiples facettes avec le billard anglais, le billard français, le snooker. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le billard anglais?
Alors le billard anglais, c'est le fameux billard que vous trouvez parfois un peu partout dans les bars, mais aussi dans vos campings, etc. Avec les fameuses billes rouges, les fameuses billes jaunes et la noire que vous terminez en dernier et la bille de jeu, donc qui est la bille blanche sur laquelle vous allez choquer ces billes donc avec votre groupe de couleurs pour finir sur la noire. Voilà, donc ça c'est le billard anglais.
Le billard, alors on parlait du tennis de table tout à l'heure, pour le coup c'est pareil, tout le monde a déjà joué au billard, tout le monde sait ce que c'est. Comment est-ce qu'on arrive à une pratique quasiment professionnelle du billard?
Alors professionnels, il y en a très peu. Ceux qui sont professionnels partent sur le circuit anglais, donc il y en a quelques-uns en France qui maintenant le font, et aussi des féminines, notamment je pense à Marion Jude, qui est la championne du monde. Donc on a des champions du monde en France, hein, Yannick Bofis, Christophe Lambert, Sébastien Ramier, et puis des filles. Donc en équipe aussi, je pense à l'équipe féminine. On a vraiment des bons, on a une bonne fédération, voilà, qui travaille bien sur l'aspect formation avec les clubs, donc qui renouvelle un peu aussi l'image du qui dépoussière justement le fait que ce ne soit pas que un sport en fait,
qu'un loisir.
Ouais, et puis qu'on pratique dans les bars en fait, mm-hmm. C'est-à-dire que justement il y a une fédération qui fait ça dans les associations de façon, mm-hmm, très classique. Comme est issu d'ailleurs donc à la base le billard français, hein. Donc il y a vraiment un cadre particulier dans ces associations que je vous invite à rejoindre. Il y a une association aussi du coup à Fontenay, il y en a une à Saint-Hermine par exemple pour le billard anglais. Donc voilà, il y a des choses qui se créent autour et il y a un renouvellement, une jeune génération. Là je suis entraîneur du coup U18 en équipe de France, on a une jeune génération qui est vraiment extraordinaire, hein. D'ailleurs j'ai aussi deux frères comme les frères Lebrun dans le ping-pong. Moi j'ai deux frères, donc les frères Luneau, qui font partie de l'effectif de l'équipe de France. Donc voilà, il y a du talent, il y a des jeunes, puis c'est un sport qui du coup a tendance à redynamiser, qui devient de plus en plus aussi télévisé puisque ça passe aussi sur notamment la chaîne Sport en France. Donc vous pouvez aller voir un petit peu ce que ça se passe sur Sport en France. Donc voilà, c'est une discipline assez sympathique.
Et alors, avec un cœur, on va dire, j'allais dire le cœur du métier, mais c'est plutôt une discipline aussi à la base anglo-saxonne, on est sous influence anglo-saxonne au niveau des instances, etc.
Alors,
au niveau de la professionnalisation surtout.
Ouais, les instances, non. Par contre, oui, sur la professionnalisation, parce que là-bas, en fait, du coup, il y a un historique sur le côté, enfin, le billard et aussi, notamment, enfin, tous les billards, mais nous, enfin, sur le billard français, qui est un des billards d'ailleurs les plus pratiqués dans le monde. Il faut savoir que justement, le billard en Angleterre, il y a comment ce côté aussi financier, sport, jeu d'argent, qui était légalisé depuis bien plus longtemps. Donc en Angleterre, donc c'est pour ça que c'est professionnel, parce que là-bas, y compris des jeunes de 18 ans n'hésitent pas à faire des money match jusqu'à des montants, des fois des sommes assez folles, donc qui pour nous serait un petit peu compliqué à aborder dans le cadre de notre pratique disciplinaire, quoi. Donc il y a aussi cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. Maintenant voilà, dans le snooker, oui, il y a de l'argent, c'est diffusé sur Eurosport. Il y a aussi maintenant le marché chinois qui vient aussi avec le Chinese 8 Ball, donc qui est, on va dire, un peu un cumulé du billard anglais, donc c'est un billard à poche, hein, mais c'est du snooker, de l'américain et du billard anglais un peu cumulé.
Salade.
C'est exactement ça. Donc avec la longueur de table qui est entre celle du billard anglais et celle du snooker, donc quasiment une table d'américain, donc des billes voilà, qui se rapprochent de l'américain et des règles qui se rapprochent du snooker et du billard anglais. Bon, il y a quelque chose. Bon. C'est du Chinese du coup.
Avant d'extrapoler et de voir un peu plus loin, parce que derrière ce sujet, évidemment, on va aller voir un peu plus loin, j'ai une question qui me tarot de l'esprit, la boule noire. Comment est-ce qu'on la rentre? Est-ce qu'on doit toucher une bande avec la boule blanche, avec la boule noire? Est-ce que non, il n'y a pas de règle particulière?
On sent que tu as perdu des perdus.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une interrogation à chaque fois qu'on y arrive. Est-ce qu'on dit c'est une bande pour la blanche, une bande pour la noire? Est-ce qu'il y a une règle par rapport à ça?
Alors en fait, ce que tu signales, ces règles-là, ça a été. Je pense que dans les bars, les campings, tout ce que tu veux, à l'endroit où tu y jouais. Le principe, c'est que quand tu avais la table, tu la voulais le plus longtemps possible. Donc on inventait des règles pour que ça dure plus longtemps. Alors que justement, le principe du billard, quand on voit maintenant les sportifs jouer au billard, le but, c'est de vider la table le plus rapidement et de ne pas laisser la main à l'adversaire. Donc justement, j'ai envie de dire, les parties peuvent être du coup plus rapides. D'ailleurs, maintenant, il y a aussi une notion de time en fait, qui rentre en ligne de compte avec le time des 30 secondes de jeu, donc par coup. Ce qui peut faire te permettre de vider une table en 2 minutes. Moi, j'ai vu des tables vidées en 1 minute. Donc il n'y a pas de règle particulière.
Donc tu nous confirmes, la boule noire se rentre comme tu peux rentrer directement.
On en a perdu des parties.
Tu perds la partie si tu rentres la bille noire, tu la rentres et la blanche rentre en même temps. Alors si tu la rentres avant aussi, ouais. Mais si tu la rentres, tu rentres la bille blanche et la bille noire en même temps, tu as perdu.
Et si tu rentres la bille noire au bout de 2 coups, t'as payé 2 euros et ta partie est déjà terminée. Bon, ça, c'est autre chose. On parle du billard parce que, évidemment, on s'intéresse aussi au phénomène, notamment des fléchettes. Nicolas, qui est en train de prendre de l'ampleur en ce moment. Tous ces sports un petit peu, j'allais dire, ces sports de salon, mais c'est le sport d'adresse, d'agilité, des loisirs, Olivier ou Nicolas, peu importe, je sais pas, qui va intervenir, où en fait, on se prend au jeu aussi. Il y a une professionnalisation de ces sports-là.
Oui, c'est comme tu dis, souvent on joue aux fléchettes ou au billard lorsqu'on est allé au café. Et puis effectivement, ces manifestations ont pris de l'ampleur au fur et à mesure du temps. Et puis voilà, il y a eu des championnats, des choses comme ça qui se sont intégrées. Et effectivement, des fois c'est impressionnant de regarder effectivement sur la télé les championnats de fléchettes ou de billard, parce qu'effectivement il y a des grands joueurs, des joueurs qui ont beaucoup d'adresse. Je suis étonné d'ailleurs, comme au billard, il y a des joueurs qui arrivent à mettre de l'effet sous la boule. C'est impressionnant.
C'est le principe. Hein. Justement, pour te replacer, tu joues avec les effets pour le.
Les effets, tout à fait.
C'est là où on est un peu novice. Enfin, moi, quand j'entends Christian parler de billard, c'est vrai que moi, je me souviens à l'époque de jouer au billard, mais de jouer entre copains. On ne sait jamais si à boule noire, il faut la mettre en une touche ou deux, etc. Donc, c'est des sports. Et puis, quand on regarde à la télé, il y a tellement de différences, par exemple, dans le billard, qu'on ne sait jamais trop les règles. Donc, moi, c'est vrai que je m'y intéresse un peu moins. Par contre, c'est vrai qu'il y a une effervescence avec le jeu de fléchettes où on avait le joueur de 16 ans, Luc Littler, qui finit deuxième et au championnat du monde là récemment. Un Français aussi qui a performé, qui a passé les stades. C'est ça. Qui a performé aussi. Donc, mais malgré tout, ça va venir aussi par la médiatisation de tous ces sports-là. Et les fléchettes, c'est pareil, on y joue entre copains avec le 501, et puis c'est le premier rapide qui finit. Mais quand on voit l'effervescence qu'il y a en Grande-Bretagne, je me souviens aussi de ce public qui est en transe avec les bières partout, il y en a partout.
Avec des grands pancartes, des 180.
C'est ça. Donc c'est là aussi où ces sports demandent à être connus. Et puis c'est des champions aussi qui sont là. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gars ils s'entraînent ou les femmes s'entraînent énormément pour arriver à ce stade-là et avoir cette effervescence qui monte. C'est ce qui est le plus important. Et ça demande.
Sur des
plus
sports
connu.
Mixtes, c'est l'avantage aussi.
C'est ce que j'allais dire, ça demande à être connu en fait. Alors les fléchettes c'est un peu plus intense parce que le billard pour moi visuellement, parce qu'on sent qu'il y a une ambiance alors que le billard c'est plutôt calme,
oui,
c'est plutôt
ça va vite.
Donc voilà, mais c'est des sports qui sont en devenir et pourquoi pas un jour les avoir aux Jeux Olympiques avec une grosse ambiance, ça pourrait être assez sympathique.
C'est le gros mot que j'allais lâcher. Aujourd'hui on voit aux Jeux Olympiques chaque année des sports qui arrivent, bon, cette année on a le breakdance par exemple. Ces sports, ce serait un peu une porte ouverte. On sait que le billard, notamment, Christian, a essayé de faire tout ce qui était en son possible pour essayer d'être au jeu. Ils n'ont pas réussi.
Tout à fait. Pour le breakdance et donc le karaté étaient les deux disciplines qui ont été acceptées, mais il y avait eu des dossiers de candidature et le billard en a fait partie. Donc il y a eu un comité qui s'était créé justement pour candidater et être sport olympique lors des JO de Paris. Et puis voilà, les deux autres disciplines ont été choisies. Bon, après, dans une logique qui était propre au CIO, par rapport effectivement au renouvellement de l'image entre un sport, on va dire par exemple le billard qui est un sport plutôt historique. Et le breakdance qui est une discipline rajeunissante pour l'image, on va dire, en tout cas de oui, je pense du CIO et de la
t'es
façon
pas,
dont...
excuse-moi je te coupe, mais t'es pas convaincu par le breakdance?
Pas du tout. Pas du tout, ça c'est mon avis perso. Après, je veux dire, on a sûrement des champions, mais je comprends pas en fait ce choix-là, surtout qui nous est vendu en mode ça va faire plaisir aux jeunes. On connaît pas. Hein. J'aurais préféré qu'il y ait le karaté qui soit maintenu au jeu avec Steven Dacosta qui est champion olympique de, en titre à Tokyo. Bon, c'est comme ça.
Tout à fait.
Moi, ce que je veux dire, c'est que, et la question que je vais poser, c'est si on ouvre la porte au billard, imaginons, parce que les Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles, à Brisbane en 2032, bon, cette influence, justement, je parlais de l'influence anglo-saxonne, voilà, on est dans des pays anglo-saxons, le billard, les fléchettes, c'est, entre guillemets, la porte ouverte à ces sports-là, ces sports d'intérieur. Et moi, je dis pourquoi pas, après. Est-ce que vous y croyez, Christian? Je te pose la question, puisque je rappelle que tu es entraîneur d'équipe de France U18
ouais,
de billard anglais.
C'est compliqué, parce qu'en fait, je pense que ça reste des décisions qui sont politiques. Le breakdance, pour moi, quand tu dis justement les candidatures sont déjà faites, enfin les prochains JO ont déjà été décidés, je pense que l'approche du breakdance, c'est pas que pour Paris, en fait. Du coup, c'est aussi pour après. Donc, dans cette modernité, je pense que la société américaine, il y a des choses qui... voilà, je vois pas le billard arriver, par exemple, dans ce comme discipline pour des JO qui auraient lieu aux États-Unis ou en Australie derrière. Donc après, ça reste peut-être... voilà, je pense qu'on ne peut pas remplacer ce que les politiques, on va dire, du Comité international olympique peuvent mettre en place pour eux. Mais je pense que ça, c'est une question à la fois médiatique, de génération de business, et on en est là. Donc que ce soit clair. Donc c'est pas, je veux dire, à proprement dit, la discipline... qui va faire rêver peut-être en tant que breakdance, c'est juste qu'il va à un moment donné peut-être avoir une approche médiatique différente en termes de visibilité. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, il faut composer avec les smartphones, avec tout ce qu'on peut regarder, tout ce qu'on peut filmer, donc de loin ou de proche. Et je pense que du coup, la danse, enfin le breakdance, fait partie de ces disciplines, à mon avis, qui sont comment dire, accessibles pour faire ce genre de choses, quoi.
Olivier?
Oui, il y a un autre jeu aussi également qui un peu commence un peu à s'étendre, qui se joue dans les bars et dans le milieu anglo-saxon, c'est le lancer de hache.
Alors, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est vrai. Alors, le principe est très simple. Il suffit de lancer une hache dans une cible, hein. C'est pas
ouais, sur quelqu'un. Sur quelqu'un.
Et il y avait d'ailleurs un établissement qui accueillait ce type de sport, qui se trouvait sur la route de Poitiers à Niort. Et qui malheureusement fermé, et ça existe, voilà, faut le savoir.
Mais il y a plusieurs bars qui existent.
Mais bah, puisqu'on est en Vendée, parlons-en, de Palais Vendéen, on voit des choses très spectaculaires au championnat de France, championnat de Vendée, un petit peu la même chose, mais c'est un petit peu le même phénomène du sport de bar, sport de cave, mais avec des personnes dont la pratique, je ne veux pas dire se professionnalise parce que ce n'est pas le cas, mais qui veulent un peu dépoussiérer ce côté... club, sport que tu joues ou pratique que tu as quand tu as une bière à la main, forcément. Il y a aussi des clubs très sérieux de palais, de pétanque, où on a vraiment une vraie question de performance. Et c'est impressionnant. Vous connaissez tous dans votre entourage des personnes qui sont très fortes au palais. C'est très impressionnant.
Ah bah c'est impressionnant. Il y a quand on voit aussi les tournois de palais. Alors, de là que le palais soit au JO.
Oui, alors, non, c'était pas du tout ma question.
Si ça arrive, je vous paye un coup.
Si ça arrive, là.
Moi, j'emmène le drapeau vendéen.
Là, il n'y a que des drapeaux vendéens, on est sûr de gagner. Non, mais c'est vrai que c'est des sports qu'on côtoie, que, comme tu dis, des sports de cave ou des sports de loisirs. Actuellement, de dépoussiérer, je sais pas. Après, c'est aussi des sports départementaux, c'est-à-dire que c'est un port des sports qui restent un peu de chez nous. Alors, on va avoir les palais bretons.
La pétanque, par exemple.
Ouais, mais la pétanque, ça s'est démocratisé. On le voit maintenant aussi avec la Marseillaise à la télé, l'équipe 21 repris. Bon, on n'en est pas encore à voir du palais à la télé. Mais je reviens sur ce que je disais, c'est plutôt de mettre en avant ces sportifs-là qui jouent et qui passent du temps à jouer et que nous, on peut se dire ouais, je suis costaud, je suis professionnel, mais en fait non, j'arrive pas à faire un carreau, j'arrive pas à mettre sur la planche mon palais, donc
il y a du
vécu, ouais. Mais voilà, c'est hyper important de valoriser ces sports là après il y a une marche pour qu'ils aillent jusqu'au JO.
Il y a un autre sport qui est un peu dans le domaine.
Alors, vas-y, attention, ça me fait très
attention.
Peur
c'est bon, allez.
C'est la boule de fort. Vous connaissez la boule de fort?
Alors, C'est un sport où on lance la boule à même, c'est un, sur le,
oui,
tour de parquet.
C'est des boules en bois, effectivement. Et c'est, Alors, c'est pas très spectaculaire, c'est moins spectaculaire que la pétanque, mais c'est un jeu d'adresse également. C'est
on est plus loin, on est à peut-être 15 mètres au moins. Hein. C'est plus loin que la pétanque.
Ça se joue beaucoup dans le Nord-Vendée, ces petits deux sports, mais c'est assez méconnu, mais c'est intéressant à regarder également.
Et c'est ces pratiques aussi qui sont très intéressantes, puisqu'au final, le sport, le loisir, c'est là où on fait le rapprochement peut-être. Oui, sur le côté 20 km marche, 30 km marche, on verra plus le côté sport que le côté loisir, et sur le côté jouer au boule, on verra plus le côté loisir, mais finalement, tout ça est un peu lié, et c'est peut-être aussi justement à travers cette professionnalisation des fléchettes, du billard, où on voit qu'il y a des passerelles qui se créent en fait.
Bah, il y a quand même, enfin, Christian, tu peux en parler. Comment tu prépares par exemple un joueur de billard sur une compétition, alors sans parler forcément de mental, mais comment il s'entraîne?
Alors déjà, il y a beaucoup d'entraînement, c'est-à-dire que comme on peut s'imaginer pour des sportifs professionnels, il y a le temps passé en fait à répéter les mouvements d'un point de vue technique avec des entraîneurs techniques, mais la dimension mentale, quand tu parles, mais il y a cette approche maintenant mentale qu'on travaille, notamment en préparation mentale intégrée, donc où les exercices qu'on va faire en dehors, avec des exercices de respiration, avec le contrôle de l'apnée par exemple, on va le mettre en pratique sur la table, donc on va vraiment faire de la préparation mentale intégrée en dehors et sur les tables. Et pour certains sportifs, il peut y avoir une prise en charge de son niveau de forme, de l'alimentation, j'ai envie de dire comme un sportif classique. En fait, on est rentré dans un cycle aujourd'hui où tous les sports peuvent se préparer au même titre qu'un joueur de billard peut se préparer, un joueur ou une joueuse comme un joueur ou une joueuse de basketball, et on y retrouve les mêmes outils, mais utilisés de façon tout à fait différente en fonction de la pratique. Et c'est pour ça que aujourd'hui des coachs, j'ai discuté donc lors de la dernière émission de Sport Méca avec Olivier, des entraîneurs qui se retrouvent confrontés en fait à une multiplicité de casquettes à avoir, avec des moyens qui ne sont pas forcément d'ailleurs beaucoup plus élevés, et pour lequel il faut s'entourer aussi du coup d'un staff pour avoir des personnes maîtrisant tous les sujets, parce que tout maîtriser devient très compliqué quoi. Donc sauf que d'un point de vue professionnel, ça demande une forme d'exigence, et en même temps le sport ça reste aussi un plaisir, donc de trouver le bon équilibre entre l'ultra performance dans la notion de résultat, ce qui existe, ça c'est évident, mais aussi dans la capacité d'un sportif et d'une sportive à se renouveler, garder le plaisir pour faire sa discipline, et aussi en matière de prévention santé mentale, et c'est pas évident. Hein. Donc la préparation, ça demande, finalement, c'est comme de la cuisine, quoi. C'est un ingrédient, ça peut vous pourrir la recette finale, alors qu'en fait on essaye de sublimer quelque chose, mais la recette, pour la trouver, c'est pas toujours facile quoi.
Et bien sûr, cette belle parole, je crois qu'on peut se quitter. J'espère que vous avez apprécié l'émission, que vous soyez fan de tennis, de table, de billard, d'athlétisme, de fléchettes, peu importe. En tout cas, merci Nicolas, Christian, Olivier.
Merci.
Merci à toi.
Merci. On s'est régalé encore. Prochaine émission du Sud Vendée Sport dans quelques semaines. En attendant, restez connectés sur les antennes de Digue Radio Sud Vendée. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Salut.
Bye bye.
Toute la journée, vous écoutez Digue Radio sur digradio.fr.